Il y a quelque temps, au groupe de jeunes, on a travaillé un thème qui sont les noms qu'on attribue à Dieu. Alors je peux vous assurer, on n'a pas fait tous les noms parce qu'il y en a des dizaines, mais on a été sur quelques-uns. Et ce qui est intéressant de réaliser, c'est que les noms de Dieu ont tous une signification particulière. Peut-être vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Intéressez-vous aux noms qu'on attribue à Dieu. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il représente les traits de caractère de sa personnalité. Quand on dit Jéhovah Tzidkenu, est-ce que quelqu'un sait celui-là? Tzidkenu, Dieu de justice. Mélodie et moi, on est dans les préparatifs de l'accueil d'un enfant, chose extraordinaire, la grâce de Dieu. Et dans ces préparatifs, il y a beaucoup de choses à faire. Qui c'est qui a déjà eu des enfants ici? Voilà, on doit rechercher. Alors, la poussette, les habits, bon, ça c'est peut-être en deuxième partie. Maintenant, réfléchir peut-être à un endroit où il va vivre. Et une de ces choses aussi auxquelles on pense, c'est le nom de l'enfant, n'est-ce pas? Ah, il y en a qui sont d'accord. Oui, moi, je l'ai vu, j'ai dit, ah, Tartampion. Ah, c'est Tartampion. Est-ce qu'on va l'appeler Vert Clair? On s'est dit, ouais, on aime bien cette couleur, pourquoi pas? Ou on pourrait peut-être l'appeler Cadeau du Ciel, c'est déjà mieux. Ou encore Mimi-Sicu, ça veut dire quelque chose, un indien dans la ville, Mimi-Sicu. Pourquoi pas? Chacun choisit le nom qu'il veut pour son enfant. Ce que je sais, c'est qu'avec Mélodie, on recherche, on réfléchit, et même, ils font des livres. On peut aller, je tombe sur Walter. Walter, ce prénom est à la forme originelle de Gauthier, origine germanique signifie « qui gouverne l'armée ». Je suis tombé par hasard, mais je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Voilà. Chiffre 7, couleur rouge, fête le 8 avril, etc. Caractère, charme, indépendance, sociabilité, charisme. Je pense que ça te correspond en bonne partie. Mais est-ce que votre nom va définir votre vie? Est-ce que parce que Walter s'appelle Walter, il va être chef d'une armée, forcément? Je ne sais pas. C'est cette question qu'on doit se poser. Est-ce que le nom que j'ai reçu à ma naissance va indiquer ma vie et ma fin? Le titre de ce message ce matin, c'est très simple. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Peut-être pose la question à ton voisin. Quel est ton nom? Et vous pouvez répondre. Posez la question. Quel est ton nom à ton voisin? Et demandez-lui sincèrement. Quel est ton prénom? Isabelle, on peut le faire. Posez la question. Voilà, maintenant vous avez pu poser la question à votre voisin. Maintenant, le but, c'est de retenir ce nom, d'accord? Moi, je m'appelle Nicolas Grobetti, pour ceux qui ne savent pas. Et la signification de mon nom, c'est vainqueur pour le peuple. Et même dans certaines définitions, ils disent vainqueur pour les péchés du peuple. Là, j'irai pas jusqu'à là. Mais en tout cas, vainqueur de Niké et Laos du peuple, c'est un beau nom aussi. Merci. Grobetti, il n'y a pas de signification connue pour le moment. Pour le moment. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner dans l'histoire biblique d'une personne qui a un nom. Et ce nom, vous le connaissez peut-être, usurpateur. Celui qui supplante. Celui qui prend par le talon. Peut-être là, qui c'est qui a trouvé la réponse? Jacob. J'aimerais que vous puissiez venir sur un passage qui a marqué la vie de Jacob dans Genèse 32, les versets 23 à 33. Un passage clé de la vie de Jacob. Genèse 32, les versets 23 à 33. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Peniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappe à Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Un passage que, je pense, ceux qui ont déjà lu la Genèse vous a peut-être marqué. Un passage qu'il faut remettre dans son contexte. Jacob a quitté Canaan, a quitté le pays de son père. Il a fui. Il est parti dans le pays de la belle famille, chez Laban. Et là, 20 ans après, il revient et il va faire face à son frère Ésaü. Un temps de réconciliation ou de bataille. Un temps marquant pour Jacob. Et ce passage est le passage clé de la vie de Jacob dans toutes ces années depuis sa naissance. Il est arrivé à la veille de la rencontre de son frère. Et là, c'est le lieu d'un combat entre un homme, un ange. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un combat de nature divine. Pour lequel Jacob ira jusqu'au bout, au point de voir sa hanche être disloquée et recevoir un nouveau nom, une nouvelle vie. Et ce matin, c'est là-dessus, c'est sur cette partie que j'aimerais vous amener à ouvrir les yeux sur ce que Dieu accomplit dans les vies, ce que Dieu permet dans nos vies. Comment cette histoire a commencé ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si ce combat marque le point culminant de la vie de Jacob, regardons le début de sa vie. Un départ plutôt incertain. Et je pense qu'on vous a déjà dit, l'important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. J'ai un ami qui est en fait le fiancé d'une de mes cousines, c'est un fou de la course. Là, il vient de finir 49 km, il a fait ça la semaine dernière, 49 km avec 5000 mètres de dénivelé à Zermatt. J'étais là, mais t'es un fou. Il y en a qui commencent et il y en a qui n'arrivent pas au bout. Lui, il a commencé, il a été jusqu'au bout. Ce n'est pas comment tu démarres ta course, c'est comment tu la termines, ta course, qui compte. Et vous connaissez sûrement l'histoire du lièvre et de la tortue. Cette histoire, cette course qui est déjà décidée d'avance. On voit le lièvre, il est au taquet, il est prêt. Et la tortue, ouais, tranquille, yes. Mais on sait comment ça se termine. On sait comment ça se termine. C'est un peu la même chose avec l'histoire de Jacob. Rebecca, sa maman, va mettre au monde des jumeaux. Et voilà ce que l'Éternel va lui dire un tout petit peu avant cette naissance. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. L'Éternel va parler à Rebecca pour annoncer ce qu'il va faire. Elle ne comprend pas tout à fait. C'est une chose très inhabituelle. Le grand sera assujetti au petit. Prince Harry devient roi à la place de Prince William, je pense qu'il y aurait un problème. Mais c'est exactement de quoi on parle ici. Mais c'est bien plus grand que ça encore. C'est ainsi qu'Ésaü pointe la tête le premier, son nom signifiant velu, roux, je pense un peu comme moi. Il est aussi l'ancêtre du peuple des Édomites, Édom. Puis Jacob arrive le deuxième qui signifie celui qui prend par le talon. Il tenait le talon de son frère, je ne vais pas le lâcher lui. Qui signifie aussi celui qui supplante, usurpateur. Waouh, quel nom! Je ne sais pas si vous avez déjà appelé votre fils usurpateur, mais c'est comme ça qu'il a été appelé. À cette époque, il est habituel que le premier-né hérite de la bénédiction du père et de la promesse de l'héritage. C'est comme ça que ça se fait, et je pense aujourd'hui, c'est encore comme ça que ça se fait dans beaucoup d'endroits. L'aîné, même si vous avez une fratrie de 10, 15 garçons, le premier va recevoir la bénédiction. C'est comme ça que ça se fait, et ça se faisait comme ça déjà avant. Et ça se confirme même par l'attitude d'Isaac vis-à-vis d'Ésaü. Il disait « il est fort, il est bon, il va chasser, il ramène du bon gibier, il me fait une bonne soupasse et j'aime ça. » Et on voit déjà là le regard d'Isaac est détourné par la forme d'Ésaü, le succès d'Ésaü aux yeux du monde. Pour Jacob, c'est évident, c'est son frère qui va hériter de la promesse de l'Éternel. Ici, on peut imaginer Ésaü est le lièvre. C'est lui qui va forcément gagner. Il est premier. Et Jacob est la tortue. C'est pas sûr qu'il gagne, il a tout sauf l'air d'un gagnant. Mais que va faire Jacob ? Il va agir de manière vile et marchander le droit d'aînesse à son frère. Pour ceux qui se rappellent de cette histoire, je vous encourage à lire et à méditer là-dessus. Ésaü, parce qu'il est fatigué, il revient de la chasse, il va marchander son droit d'aînesse contre un beefsteak. Ouais, contre un plat de soupe, mais il y avait de la viande dedans. Mais peu importe, il a marchandé sa bénédiction du premier-né. Et Jacob, paf, tiens, je t'ai eu. Et il va même tromper son père. Jacob va mettre poil de chèvre et tout, et va tromper son père Isaac pour recevoir la bénédiction et l'héritage qui était promise à Ésaü. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette réalité? C'est quoi cette histoire? Et je me dis, mais ça me fait penser dans ce proverbe, chapitre 20, verset 24, on nous dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Est-ce qu'il a même compris ce qu'il faisait? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il faisait? Est-ce que c'est même lui qui avait vraiment choisi ça? Arrêtons-nous ici pour comprendre un petit peu. Jacob a pris un mauvais départ. À peine âgé d'une vingtaine d'années, il est déjà en train de tromper son frère, et un tout petit peu après, il va même tromper son père. On aurait envie de dire, mais espèce de menteur, espèce d'usurpateur, mauvais, tricheur. Et je pense qu'il est juste de penser ça de Jacob à ce moment-là. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il est juste de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je me dis, mais pourquoi il est méchant? Il est vil. Et de mentir devant Isaac, il va dire, est-ce que c'est bien toi, Ésaü? Oui, oui, c'est moi. Regarde, touche ma fourrure. C'est ce qu'il va dire devant son père. Mentir comme ça. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de juger quelqu'un pour son attitude? Oui, on peut lever les mains tous, on est d'accord. Nous aimons mettre des étiquettes sur le dos des gens. Toi, t'es comme ça, tu vas être comme ça, t'es comme ci. Nous l'avons peut-être même vécu nous-mêmes. Et j'ai eu la chance dernièrement de partager mon témoignage lors d'une pastorale des pasteurs des églises de réveil. Et je peux vous dire que durant de nombreuses années, des gens ont mis des étiquettes sur moi. Nico, fumeur, dealer, menteur, t'arrives en plus en retard toujours à tes rendez-vous. Lui, c'est bon, c'est un perdant. Lui, il n'y a rien à faire avec lui. Hop, on te met une étiquette et c'est comme ça. Même mes parents aujourd'hui sont... Comment ça se fait? Mes grands-parents qui sont ici, je pense qu'ils ont pu se dire, mais c'est pas possible, on va lui mettre une étiquette, c'est comme ça qu'il est. Il est joli, il est roux, mais quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne regarde pas à notre apparence, et on le sait, il regarde à notre cœur. Et ça dépasse la compréhension des yeux humains. Dieu regarde au cœur, c'est ce qu'il dira de David. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a deux nations. Isaac est même perdu, il regarde la nation visible, l'humain. La qualité humaine, il regarde Ésaü, le choix charnel, le choix de la vie d'humain. Mais Dieu regarde au choix divin et regarde Jacob. Je ne regarde pas ce que tu as fait, je regarde ce que j'ai prévu pour toi. Le départ de Jacob n'est certes pas le plan parfait de sainteté que nous pourrions imaginer être approuvé de Dieu. Mais Dieu connaît déjà la suite de la course. Elle ne s'arrête pas sur un mauvais départ. Peu importe comment ta vie a commencé, c'est Dieu qui détient la fin. On l'a entendu ce matin. C'est Dieu qui détermine la fin de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un autour de toi, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes compétences, c'est Jésus. Une rencontre qui va interpeller la vie de Jacob. Dans sa fuite, il part de chez lui, il va se retrouver seul. Et à ce moment, il s'arrête épuisé parce qu'il a déjà marché une quarantaine de kilomètres pour se retrouver dans cette ville qui s'appelait Luz et qu'il va à ce moment-là vivre une vision, cette échelle qui descend du ciel. Les anges descendent et montent. Là, il va dire, oui, l'Éternel existe bien, il est là. Il va nommer ce lieu Bethel, la rencontre. Quelque chose va se passer dans sa vie. Il s'est éloigné des choses du monde, il s'est éloigné à ce moment-là, son cœur est prêt à recevoir une parole de Dieu. En fuite, il est en train de courir, de fuir chez lui, il est paniqué, il est seul. À ce moment-là, Dieu a une place. À ce moment-là, Dieu peut faire quelque chose. À ce moment-là, Jacob, la tortue reprend du terrain sur Ésaü le lièvre. L'accomplissement de la promesse de Dieu s'approche. Il avance tranquillement vers la victoire, mais en gardant toujours le contrôle de sa course néanmoins. Il y a un lien pour notre vie ici, mes chers frères et sœurs, il y a un lien très fort. C'est que des fois, et ça vous est arrivé, et peut-être c'est le cas même aujourd'hui, vous fuyez quelque chose, vous êtes dans la détresse et vous êtes seul, et aujourd'hui, la parole de Dieu va tomber dans votre cœur et va dire « Merci, tu me rassures, tu me redonnes de l'espoir ». Mais derrière, tu gardes toujours le volant de ta vie. Derrière, c'est toujours toi qui veux contrôler ce que tu fais, tu veux contrôler ta destinée, comme Jacob. Il va y avoir quelque chose, mais c'est toujours lui qui détient les rênes et qui veut choisir l'itinéraire de sa course. Cette parole qui tombe, c'est comme si elle tombait dans un pot au lieu de tomber en terre. Et je ne sais pas ceux qui ont déjà eu des plantes à la maison, mais lorsque vous mettez une plante dans un pot, si vous n'êtes pas derrière à mettre de l'eau, à prendre soin d'elle, la plante, elle meurt très rapidement. Alors que si vous mettez la graine dans la terre, Dieu va prendre soin de la graine. Parce que c'est lui qui est maître de la pluie, des temps. Et il va faire pousser la plante au rythme et à sa manière. glorieuse manière. Jacob avance vers la direction de Dieu pour lui, mais il est encore indépendant. Combien de nous sommes encore indépendants ? On vient à l'église, on prend la parole, mais derrière on dit « Ouais, j'ai pris ça Seigneur, merci, mais c'est quand même moi qui tiens le volant. Je suis encore indépendant des choix que je fais. Je préfère cette solution. » Cela va durer plusieurs années, jusqu'au moment de faire face à son passé. On sait, il va arriver, il va rencontrer Rachel. Laban va l'arnaquer littéralement, il va dire « Ok, travaille pour moi !» pour la dot en fait que tu dois donner à ma fille 7 ans. Et là, il lui met Léa, la grande sœur, dans le lit. Tiens, voilà, c'est ta femme. Non, c'est pas Rachel, c'est Léa. Il se fait avoir et donc il va marier Léa. Et ensuite, il reste encore 7 ans. Et ensuite, il va encore travailler 7 ans. Tout cela pour presque faire 21 ans. C'est à peu près 20 ans, on parle. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, bon, maintenant, il est temps que j'accomplisse ma promesse dans ta vie. Tu détiens encore un peu les rênes, mais j'ai un plan pour ta vie. Et là, il lui dit, maintenant, retourne dans la terre de tes ancêtres. Retourne là où je vais accomplir ma promesse pour toi. Il dit, ok, bon, j'y vais. C'est parti, j'y vais. Alors, il va retrouver son frère Ésaü, celui à qui il a volé la bénédiction. Waouh, quelle rencontre. Je ne sais pas si vous avez déjà dû vivre des restaurations ou des rencontres avec vos frères, vos sœurs. Et je parle de biologie parce qu'il s'est passé quelque chose. Lorsqu'il s'est passé quelque chose de difficile, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et lui, il appréhende cette rencontre. Il n'est pas dans la joie, il n'est pas « Ouh, ça va être trop bien !» C'est la crainte qui l'anime, la peur de faire face à son frère. Jacob se met à douter de Dieu, alors qu'il a vu les bénédictions de Dieu l'accompagner. Il se met à douter. Alors il veut adoucir le cœur de son frère, et on sait, il va envoyer des troupeaux en avant, il veut adoucir son cœur pour dire « Au cas où, il ne me mettra pas la claque que je mérite, hein, le jugement que je mérite. » Parce que j'ai désobéi, parce que j'ai agi de mauvaise manière. En fait, il demande l'aide de Dieu, mais il accomplit ce que lui veut faire. C'est comme si, et c'est ce qu'on fait maintenant d'ailleurs avec Mélodie, on demande un appartement, on prie pour un appartement, et c'est vraiment notre cœur, Seigneur, ben, on aimerait changer d'appartement pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. On a envie, c'est notre souhait, mais Seigneur, c'est toi qui vas choisir notre appartement. Alors là, on n'est pas en train de s'affoler sur toutes les annonces. On a dit, c'est ça qu'on souhaite, Seigneur. Tu vas nous ouvrir l'appartement qu'on a besoin. Mais des fois, en fait, on est là, puis, bon, t'as pas un contact, t'as pas... Si, en fait, on est en train de dire, Seigneur, contrôle, mais attends, il y a une opportunité. On ne laisse pas Dieu agir. Et c'est à ce moment que Jacob va vivre quelque chose de profondément marquant. Parce qu'il réalise en fin de compte qu'il ne peut pas contrôler cette rencontre. Il est impuissant face à cette rencontre, devant son frère. Même s'il envoie des cadeaux, il a quand même peur. Et c'est à ce moment que Dieu vient prendre le relais. Il se retrouve à part, seul à nouveau. Et on lit dans ce passage que j'ai déjà lu au début, Genèse 32, on va lire quelques versets. « Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom ? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quel est ton nom ? Ici, nom signifie Shem, qui veut dire aussi ta réputation. Ta renommée. Quelle est ta renommée quand les gens parlent de toi ? Succès ? Force ? Quelle est ta renommée ? L'ange va lui dire, quelle est ta renommée ? Ben Jacob, usurpateur, celui qui prend le talon. Tu me connais quoi ? Ah d'accord, c'est ça ta renommée. À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Mais aussi Dieu prévaut. Ou encore, Dieu règne. Voilà comment je vais t'appeler. Tu as lutté avec Dieu, mais c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui prévaut. C'est ton nouveau nom maintenant. C'est plus ton passé, mais c'est ta vie nouvelle qui te définit. Dans ce passage, nous voyons l'intensité du désir de Jacob de voir Dieu contrôler sa vie. Il ne laisse pas partir son adversaire sans avoir été béni. Cette lutte, vous savez quoi ? C'est le combat de notre foi. Qui c'est qui a déjà lutté pour sa foi ? On lutte parce que c'est un combat. Et le combat est des fois très virulent, très difficile. Est-ce que Dieu vraiment a prévu quelque chose pour moi? Est-ce que mon passé ne va pas me rattraper? Est-ce que je suis assez fort pour tenir bon? Est-ce que je vais réussir à payer mes factures? Est-ce que je suis assez qualifié pour travailler? Ces questions, la plupart d'entre nous, on se les pose. Mais quelle est notre réaction? Sommes-nous prêts à nous battre pour obtenir les promesses de Dieu? Un des versets que je préfère dans la Bible, c'est Matthieu 11, verset 12, qui dit « Depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu fait face à des oppositions et seulement les violents s'emparent du royaume. » Et je crois que des fois, nous les chrétiens, on est trop « Ah, il faut le caresser, on va prendre les petites fleurs, on va sentir. » C'est un combat. Et seulement les violents s'emparent du royaume. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour l'Éternel? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour aller dans la promesse que Dieu a déjà accomplie à la croix pour vous? Mais il faut vous battre parce que le diable, il est comme un lion, il rôde et il est prêt à bondir si on ne se bat pas. Sommes-nous prêts à reconnaître que Dieu seul est souverain et que son plan prévaut sur le nôtre? Sommes-nous prêts à reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans son aide et sa grâce? Cette lutte finale de Jacob est la lutte pour une nouvelle vie, pour un changement radical de sa manière de vivre et d'avancer. Une vie qui passe de l'indépendance à la dépendance. Est-ce que je suis indépendant ou est-ce que je suis dépendant de l'Éternel? Et en fait, les questions vont changer à partir de là. Ce n'est plus « est-ce que Dieu peut ?» Est-ce que je peux ? C'est « Dieu peut ». Dieu est assez fort. Dieu va pourvoir. Il est le bon berger. Tout va changer. C'est plus centré sur mes capacités. On le chantait. Le pasteur Walter l'a dit. C'est sa grâce qui va combler notre incapacité. À ce moment-là, Jacob réalise que la promesse qu'il a reçue ne peut que s'accomplir par la grâce et non par sa capacité. À ce moment-là, il réalise que le plan de Dieu s'accomplit seulement si Dieu est au contrôle. Cette révélation va laisser une marque visible à Jacob, une marque qui lui rappelle que ce n'est plus son nom qui doit être en avant, mais le nom de l'Éternel. J'arrive à la fin, je vous demande encore quelques minutes. À partir de là, c'est une nouvelle marche, c'est une nouvelle vie. Pour Jacob, pour Israël. On lit dans Genèse 32, verset 32, « Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, et il boitait de la hanche. » Cette bataille est gagnée. Jacob en ressort vainqueur. Pourquoi? Car maintenant, il a compris que c'est Dieu qui règne, d'où son nom Israël. Il a lutté, mais Dieu prévaut, c'est Dieu qui règne, et plus Jacob. C'est lui qui accomplit sa promesse, et non les hommes. Cette révélation est profonde dans le cœur de Jacob, mais aussi dans son corps. Sa marche a changé. Il boite. Il ne pourra jamais oublier. Il boite. Il y a quelque chose que Dieu a changé profondément, qui doit se voir. Est-ce que vous avez été changé profondément? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit que Dieu vit en moi? C'est une question que je me pose quasiment tous les jours. Est-ce que ça se voit par rapport à ma vie, à ma démarche, à mon attitude, mes regards, mes paroles? Est-ce que ça se voit? Il sait maintenant que sa force lui vient de l'Éternel et que c'est lui seul qui le comblera. Il peut donc avancer maintenant vers son frère, vers cette rencontre, d'une toute nouvelle manière. Il ne craint plus devant ce face-à-face, car il est confiant dans la grâce de Dieu qui l'accompagne. Quelques heures plus tard, Jacob va faire face à Ésaü. Et cet échange, je vous inviterai à le relire, il est incroyable. Genèse 33, vous pourrez lire, c'est tout le chapitre 33, particulièrement les versets 9 à 11, 12, où là, les cadeaux sont arrivés, et cette fois, Jacob est passé devant toute sa famille. Et il va arriver devant son frère, il va s'incliner 7 fois. Et là, son frère va lui sauter dans les bras, ils vont pleurer, ils vont se pardonner. Et là, en fait, la grâce de Dieu a déjà opéré. Les cadeaux, il s'en fiche. Il va lui dire, pourquoi ces cadeaux? Il lui dit, moi, je voulais trouver grâce à tes yeux. Il dit, mais ça ne sert à rien. Dieu a déjà accompli le miracle dans ma vie. Ça ne sert à rien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est assez fou. C'est que chacun, il veut dire, mais prends ce cadeau. Non, mais je n'ai pas envie de ce cadeau, j'ai déjà assez. En fait, Ésaü va dire, j'ai déjà assez. Il dit, écoutez, Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce. Et là, grâce dans ce mot, c'est chanon, qui veut dire Dieu a fait miséricorde. Dieu a montré sa faveur. Et lui dit, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Dieu. J'ai Dieu. J'ai Dieu. Toi, tu as l'abondance. Ésaü dit, moi j'ai l'abondance. Et des fois, c'est ce qu'on voit. Les gens du monde, ils ont l'abondance, ils réussissent. Moi, j'ai Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la vie éternelle. C'est ce que disait notre frère Simon. J'ai la vie éternelle. Quoi de plus? Et je pense que si vous avez lu le Memento, c'est aussi ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Êtes-vous certain de votre éternité? Parce que c'est tout ce qui compte. Et au départ, alors que je termine, au départ, ils se rencontrent. Et Ésaü va dire, mais viens avec moi, viens devant. Viens montrer ta réussite, tel le monde. Montre ta réussite. Et il va dire, non. Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé ma démarche, Dieu a changé mon regard. Je veux être avec les petits-enfants et le troupeau. Je veux être avec ceux qu'on délaisse, mais que Dieu regarde. Il va dire, je ne peux plus marcher devant. Je dois être avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont faibles, parce que c'est là où Dieu met son cœur. Et alors, il va laisser partir son frère, et lui, il va marcher avec le peuple, avec le troupeau, avec ceux que Dieu regarde avec amour. C'est un nouvel itinéraire que Jacob commence, celui d'un homme qui a rencontré Dieu et qui ne craint plus car il sait que son Dieu règne, Israël, sur lui et qu'il accomplit sa promesse. Jacob est devenu Israël maintenant et avance en nouveauté de vie. Et pour nous, c'est la réalité d'une nouvelle naissance. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ en lui. En fait, c'est déjà, comme on dit, une christophanie, c'est déjà quelque chose qui nous annonce ce qui va se passer. Ce n'est plus tes forces, c'est la force de Dieu qui règne. Ce n'est plus sur tes compétences que tu peux accomplir ma destinée, c'est sur mes compétences, sur l'accomplissement de ma vie à la croix pour toi, que tu peux baser ta vie et ton éternité. Ça veut dire que peu importe qui tu es, peu importe ton début, peu importe tes compétences, Dieu prévaut. Dieu prévaut. Pour chacun de nous, le départ dans notre course terrestre est différent. Et pour certains, il peut paraître perdu d'avance. Je pense que certains d'entre vous ici, vous êtes déjà mis dans cette position de tortue face à des gens. Vous vous dites, lui, il a tout pour réussir et moi, j'ai rien pour réussir. Mais Dieu, il a quelque chose d'autre. Dieu, il a vu le cœur. Dieu, il a vu son plan pour ta vie. Il a déjà écrit chacune de tes journées et il connaît déjà la fin de ton histoire. C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire, que nous sommes faibles et que ce sont que les forts qui gagnent. Et parfois, il nous semble impossible d'imaginer Dieu manifester son plan dans notre vie. Combien de fois on a douté que Dieu puisse faire des choses dans notre vie? Combien de fois je me dis encore maintenant et dans quelques mois, bientôt, je serai pasteur et je me dis, mais encore des fois, je me réveille et je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas possible, quoi. Mais Dieu l'a fait, parce que Dieu règne. Parce que c'est plus moi qui règne, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Et Dieu établit son plan dans ma vie parce que je lui ai laissé. Parfois, alors que nous ouvrons notre cœur, nous nous laissons toucher par sa parole qui nous encourage à le suivre malgré les combats. Nous marchons, mais nous créons notre propre chemin. Et ça, c'est le cas de beaucoup ici aujourd'hui encore. Il aura fallu beaucoup d'années pour Jacob avant d'abdiquer, avant de dire « j'y arrive plus, je ne veux plus que ce soit moi qui arrive ». On vient ici, on prend une parole, on est réencouragé, mais on tient toujours le contrôle de notre vie. Et on ne vit pas les promesses de Dieu. On vit la crainte. Parce qu'on n'a pas laissé Dieu la première place de notre vie. On doute des promesses de Dieu. Et on essaie de chercher des solutions humaines pour notre succès, pour notre bonheur. Alors que nous devrions combattre pour notre foi. Se rappeler que les promesses de Dieu sont oui et amen. Que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais on ne va pas lâcher cette promesse. Quitte à changer de marche, quitte à lui laisser la place totale, quitte à recevoir un nouveau nom, celui de Dieu qui règne. Parce qu'après tout, qui sommes-nous? Seulement Dieu règne, et seulement Dieu peut accomplir sa promesse dans notre vie. Il n'y a aucun autre nom. Ce matin, j'aimerais vous donner l'opportunité de répondre à ce message. Et la question est très simple. Qui désire aujourd'hui recevoir un nouveau nom? Si aujourd'hui tu désires un nouveau nom. Ce nom va marquer un changement dans ta vie profond, mais ça va se voir. Et on verra que Dieu règne dans ta vie et qu'il ira jusqu'au bout de sa promesse pour ta vie. Amen.